France Culture.
Le journal Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. 5 jours après l'agression mortelle à Lyon du jeune militant nationaliste Quentin Derenck, les députés observent une minute de silence et Sébastien Lecornu d'inviter la France Insoumise, je cite, à faire le ménage dans ses rangs. Les faits se sont déroulés en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan, échange encore vif à l'Assemblée nationale, échange suivi par Nicolas Ballu. Également au sommaire, le projet de loi constitutionnelle du gouvernement sur la Nouvelle-Calédonie dans l'impasse, le Parti socialiste s'y oppose, précise Stéphane Robert. Outre-mer ou Parcoursup est encore plus inégalitaire qu'en métropole, nous dira Hakim Kasmi, à la faveur d'une mission parlementaire flash initiée cet après-midi par 2 députés. La disparition de Jesse Jackson, reportage dans le berceau des droits civiques aux États-Unis à Atlanta, signé Laurent Kramer. Les droits civiques et l'exclusion, bien sûr. Public Housing, l'un des 46 films de Frederick Wiseman, tourné dans une cité d'un ghetto noir de la ville de Chicago en 1990. Wiseman est mort, éloge de l'œuvre du documentariste Monde par la cinéaste Julie Bertuccelli. À la fin de cette édition, dossier dans le cadre des futures élections municipales en France, consacré à ces sortants qui se représentent en nombre. Rosalie Lafarge l'a constaté dans les Hauts-de-Seine. 5 jours après la mort du militant identitaire Quentin Derenck, à l'issue d'une rixe entre bandes rivales à Lyon, la présidente de l'Assemblée nationale a demandé à ce que les députés observent une minute de silence unanimement respectée par les élus. Pour autant, aucune accalmie sur le front politique tempétueux, alimenté par une polarisation à outrance du champ critique. En témoignent ses prises de parole cet après-midi sur les bancs de l'hémicycle. Il a beaucoup été question des liens entre la France insoumise et le collectif La Jeune Garde. Et Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
Le Premier ministre ne s'est pas privé de cibler les leaders de LFI.
En effet, il n'a pas été le seul. Par exemple, Laurent Wauquiez, pour les députés LR, avait donné le ton dès le début.
Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Quand elle a osé ici, dans cet hémicycle, avoir des députés d'extrême gauche qui ont applaudi l'un des leurs, fiché S, qui a osé proclamer dans cet hémicycle « Vive la Jeune Garde ».
Voilà une déclaration dans un hémicycle comble et finalement très silencieux dans un premier temps, comme en suspension, à l'écoute, conscient de l'importance du moment. Mais les mots sont lourds. La Jeune Garde tuée, la France insoumise devrait être condamnée, avance le ministre de la Justice lui-même, Gérald Darmanin, tout en rappelant la dissolution de petits groupes d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Mise en cause depuis plusieurs jours sur la défense, Mathilde Panot pour LFI a choisi l'attaque.
Nous n'acceptons pas que la violence physique, d'où qu'elle vienne, soit employée pour régler les conflits. Jamais nous ne l'avons acceptée, jamais nous ne l'accepterons. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Leurs manœuvres sont indignes. Aucun insoumis n'est impliqué, ni de près, ni de loin, dans ces violences.
Et elle vise Sébastien Lecornu.
Il vous aura fallu ce drame pour sortir enfin du silence. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre assemblée, par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022.
Et Mathilde Panot qui accuse également le gouvernement de ne pas avoir mis les moyens nécessaires à la sécurisation des lieux. Réaction immédiate du Premier ministre.
Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject.
Sébastien Lecornu, très applaudi, qui appelle la France insoumise à faire le ménage.
Il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. Depuis de nombreux mois, il y a une multiplication de prises de parole qui sont d'une violence inouïe, qui sont parfois à caractère antisémite et désormais qui laissent justement de l'ambiguïté sur la violence.
Séance devenue donc particulièrement tendue malgré les hommages rendus de tous bords. La minute de silence semblait très loin.
Merci à vous, Nicolas Ballu. À la mort de Quentin Derenck, rappelons qu'hier, la justice a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Aucune interpellation à l'heure qu'il est. Chronique d'un échec annoncé, celui que risque de rencontrer la réforme constitutionnelle sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi du gouvernement arrive demain sur la table de la Commission des lois au Sénat avant son examen dans l'hémicycle mardi prochain, mais D'ores et déjà, il bat de l'aile. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Mathieu.
Très simplement Stéphane, les socialistes n'en veulent pas.
Non, les parlementaires socialistes, dans une tribune publiée par le journal Le Monde, annoncent qu'ils ne voteront pas le projet de loi constitutionnel sur la Nouvelle-Calédonie. Ce projet de loi vise à se substituer aux accords de Nouméa, signés en 1998, et à redéfinir le lien et les relations de la Nouvelle-Calédonie avec la France. Il s'agit plus concrètement de mettre en œuvre l'accord de Bougival, signé l'été dernier, amendé par l'accord Élysée-Oudinot, signé à Paris au mois de janvier. Ces accords prévoient la création d'un État calédonien, d'une nationalité calédonienne, tout en maintenant le lien avec la France. Ils prévoient aussi la possibilité d'un transfert très encadré des compétences régaliennes encore exercées par l'État français. Parallèlement, ils prévoient aussi le dégel du corps électoral pour les élections provinciales. Seuls les résidents présents dans l'archipel avant 1998 étaient jusqu'ici autorisés à voter. Seulement ces accords, Bougival et Élysée-Oudinot, les indépendantistes de l'UC, FLNKS n'en veulent pas. Et c'est notamment pour cette raison que les socialistes décident de ne pas voter le projet de loi constitutionnel dont l'examen au Parlement doit débuter demain. Il n'est pas possible de laisser l'UC-FLNKS en dehors, écrivent-ils dans la tribune publiée ce matin. Par ailleurs, écrivent-ils encore, ce projet de loi est lourd de danger. Il faut se souvenir que c'est déjà un projet de loi constitutionnel prévoyant le dégel du corps électoral qui avait déclenché les émeutes ayant ravagé l'archipel il y a 2 ans. Le résultat avec ce refus des socialistes bloque tout le processus. Sans eux, impossible de voter un texte conforme entre le Sénat et l'Assemblée, condition indispensable à la révision constitutionnelle. Nous aurons par conséquent des élections provinciales au mois de juin en Nouvelle-Calédonie avec un corps électoral gelé. Et ensuite, il ne devrait plus se passer grand-chose avant l'élection présidentielle de 2027 et le renouvellement de l'exécutif français.
Stéphane Robert, un peu plus de 6% des enseignants d'Île-de-France étaient en grève aujourd'hui. Une intersyndicale de l'éducation assemblant la FSU, l'UNSA, Force ouvrière, la CFDT, la CGT Sud avait appelé la semaine dernière à la mobilisation après l'annonce de suppression de postes dans les académies de Paris, Versailles et Créteil. D'autres affres, celles qu'endurent les candidats à Parcoursup qui ont jusqu'au 12 mars pour déposer leur dossier sur la plateforme. Plateforme souvent source de stress pour les élèves de terminale et leurs parents. C'est dans ce contexte que le député PS de la Loire, Pierrick Gourbon, et son homologue d'outre-mer Modem, Franz Gumps, qui représente Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ont lancé cet après-midi à l'Assemblée nationale une mission flash sur Parcoursup. Au chapitre, les difficultés liées aux algorithmes ainsi que le nombre de places dans les formations. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Mathieu Laurent.
Hakim, ces difficultés sont encore plus grandes, il faut le souligner, pour les candidats issus des départements d'outre-mer où les moyens manquent.
Oui, comme en métropole, on manque de places, particulièrement dans les filières comme médecine, droit, psycho ou encore STAPS. De plus, faute de moyens, le nombre de formations reste très limité. Résultat, dans un département comme la Guyane, 30 à 40% des bacheliers ne trouvent pas de formation dans le supérieur, contre seulement 1% en métropole. Alors si une partie d'entre eux sont obligés de venir étudier dans l'Hexagone, financièrement, cela reste très difficile, comme nous l'explique Yaovi Tabiou, porte-parole de l'UNEF en Guyane.
On est entre 30 et 40% de personnes qui n'ont pas eu d'affectation. Et pour ces personnes-là, un certain nombre d'entre eux dont les parents peuvent avoir les moyens, et ce qui n'est clairement pas la majorité, peuvent s'orienter vers des formations privées ou d'autres choses. Et pour le reste d'entre eux, donc ça consiste souvent à se débrouiller, donc trouver des petits jobs en attendant de pouvoir recandidater l'année suivante ou parfois pour un certain nombre d'entre eux s'éloigner totalement des études supérieures et ne pas y revenir.
Alors pour améliorer les conditions d'accès au supérieur, le député Modem de Saint-Barthélemy de Saint-Martin, Franz Gumps, a notamment préconisé cet après-midi à l'Assemblée nationale d'augmenter l'aide à la mobilité de Parcoursup pour les néo-bacheliers qui sont obligés de poursuivre leurs études en métropole, loin de leur famille. Enfin, il souhaite également que les concours dans les filières sélectives soient organisés en distanciel pour les élèves de terminale qui viennent des départements d'outre-mer.
Merci à vous, Hakim Kasmi. Avant de prendre la route des Indes, où il ambitionne de renforcer le partenariat stratégique avec New Delhi et d'y vendre des avions Rafale, Emmanuel Macron aura pris soin d'accélérer la succession de Jack Lang à la tête de l'Institut du Monde Arabe, tout en sachant qu'il n'a pas pouvoir de nomination à ce poste. Moyennant quoi, c'est l'une de ses conseillères, Anne-Claire Legendre, en charge de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la cellule diplomatique de l'Élysée qui a été choisie. Elle a fait l'unanimité parmi les membres du conseil d'administration de l'IMA, où siègent 7 représentant de pays arabes. À 46 ans, cette diplomate de carrière prendra sous peu la direction de cet institut, à la fois lieu culturel et instrument diplomatique. Après la démission précipitée de son prédécesseur, attrapé par l'affaire Epstein, Anne-Claire Legendre devra assurer, je cite, « la mise en œuvre d'une réforme ambitieuse souhaitée par le ministère des Affaires étrangères, dont dépend l'IMA, Pierre Ropert ».
Juste devant l'Institut du monde arabe, quelques minutes après sa nomination, Anne-Claire Legendre assure vouloir y ramener de la sérénité.
Il faut qu'avec toutes les équipes, on puisse travailler à redonner une feuille de route à cette institution et à lui redonner la confiance du public et de tous ceux qui s'intéressent à la culture arabe.
La toute nouvelle présidente de l'Institut a également salué le bilan de son prédécesseur.
Jacques Lang a redonné une très grande visibilité à cette institution. Il a permis à cette culture de rayonner. Et donc il faudra bien sûr pouvoir continuer sur cette lancée et trouver des nouvelles pistes d'action.
L'ancien ministre de la Culture a en effet su faire de l'IMA un institut réputé au rayonnement international. Fin 2024, un rapport de la Cour des comptes avait cependant pointé un déficit d'exploitation endémique. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères souhaite donc le rétablissement d'une trajectoire financière soutenable. Il a annoncé un audit de la gestion financière et des ressources humaines, au programme également une réforme de la gouvernance avec la création d'un comité de déontologie et un renforcement des règles de prévention des conflits d'intérêts. Des missions qui incomberont donc à Anne-Claire Legendre.
Mon rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre à plat l'ensemble du fonctionnement de l'Institut du monde arabe, à la fois sur le plan financier, budgétaire, des ressources humaines. Nous allons nous attacher évidemment à faire la plus grande clarté. J'ai une mission de transparence.
Des directives qui s'ajoutent à la mission principale de l'Institut du monde arabe, assure sa nouvelle présidente, revendiquer la part d'arabité de la France comme l'une de ses richesses.
Pierre Ropert, il était à la fois une figure de la lutte pour les droits des Afro-Américains, une personnalité liée à Martin Luther King et un ex-candidat à la présidentielle. Le pasteur noir américain Jesse Jackson est mort aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Inlassablement, Jesse Jackson aura donné une voix aux sans-voix, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire, particulièrement à Atlanta, berceau de la lutte pour les droits civiques. C'est un reportage de Laurent Kramer.
C'est ici, au cœur du quartier historique des droits civiques à Atlanta, que Jesse Jackson a accompagné Martin Luther King de 1965 à 1968. Alors jeune militant venu de Chicago, il reprendra le flambeau du combat pour les droits civiques dans les années 70.
Jesse Jackson, c'est un héros américain.
L'histoire des droits civiques résonne particulièrement ici à Atlanta, y compris pour les jeunes générations. Derek a tout juste 40 ans.
Sa génération nous laisse un immense héritage dont on bénéficie aujourd'hui, l'égalité des droits pour tous. Grâce à ces combats, les Noirs et les Blancs peuvent aujourd'hui partager un destin commun et y contribuer.
Une sincère émotion étreint les plus de 50 ans, car Jesse Jackson était plus qu'une figure politique ou médiatique, presque une icône du militantisme des années 70-80.
C'était une grande voix du mouvement des droits civiques. Through love, not through hate, mais toujours dans la non-violence, avec amour, sans haine.
You're trying to make a difference.
And il voulait faire bouger les lignes et rapprocher les cultures.
And so, I think whenever
donc la disparition d'une figure aussi importante est forcément triste.
It's sad.
La disparition de Jesse Jackson intervient en pleine célébration de l'histoire de l'héritage afro-américain des personnes noires aux États-Unis. Sa famille annonce des commémorations à Chicago, dans sa ville natale.
Frédéric Wiseman, qui lui a tourné les talons du haut de ses 96 printemps, aimait à dire « Je suis mon nez, mes grandes oreilles, mes yeux, triptyque de l'instinct, qu'il conduira à sonder les institutions comme les marges, des heures, des jours, des semaines, des mois durant. » Le documentariste américain, épris de théâtre et de littérature, avait l'objectif de faire collection, se prévalant d'un catalogue de 50 documentaires, il en façonnera 46 œuvres, monumental, admiré, je ne sais si c'est le bon terme, admiré, vous pourrez vous apprécier les propos à venir, par la réalisatrice Julie Bertuccelli, présidente de la Cinémathèque du documentaire.
Pour moi, c'était un grand monde, un immense homme. D'ailleurs, je l'appelais Wiseman, parce qu'il était pour moi aussi vaste que le monde qu'il nous offrait à voir. Quoi. C'était un super-héros, puis très singulier, très solitaire, très secret. Il préférait observer plutôt que d'être observé. Et en même temps extrêmement drôle. Je crois qu'il se décrivait comme un fantaisiste fanatique obsessionnel. Ça lui allait hyper bien comme description. Et puis c'est vrai qu'il parlait de ses grandes oreilles. C'était ça lui. Hein. C'était pour nous, c'était son trench coat, ses yeux perçants. son sourire espiègle, puis il avait vraiment un sens de l'humour ravageur, quoi. Donc, voilà, en tout cas, ça a été mon incontournable maître et notre Balzac ou Dickens à nous tous, parce qu'il a fait lui-même une comédie humaine. Il a fait sa propre comédie humaine sans relâche depuis des années. Il a fait pratiquement 115 heures cumulées de cinéma en 46 parties. Et donc, c'était grandiose, comme traversée du monde, quoi, une chronique monumentale. Et on a envie d'envoyer tous ces films dans l'espace pour présenter aux extraterrestres l'espèce humaine, quoi. C'est dément d'avoir fait tous ces films. C'est un cadeau immense qu'il a laissé à l'humanité.
Il y a, peut-être faut-il ajouter cela, une dimension sociologique, même anthropologique à son œuvre.
Ah ben oui, parce qu'il a tout traversé, il nous a tout montré. C'est-à-dire qu'il ne jugeait pas. C'était ça surtout que je trouvais, moi, très touchant. Et je pense que c'est là qu'il disait que c'est l'anthropologie, mais dans un sens de nous montrer les choses où nous, on enrage, on est choqué, on a souvent honte. Mais en même temps, ça nous aiguise le regard, quoi. Ça nous rend plus curieux, ça nous amuse. Enfin, plus on était amusé, plus c'était bon signe que l'humanité allait s'arranger, parce qu'au moins on avait du recul. Il faisait jamais un film didactique ou militant. Il voulait au contraire rentrer dans la complexité des choses. Et puis en plus, c'était un homme orchestre, parce que non seulement il produisait ses films, il les réalisait, il prenait le son aussi, il les montait, et puis il les diffusait souvent lui-même. Il a très peu écrit sur lui, il a très peu parlé de son travail, mais une fois, alors c'est un peu de mémoire, mais il disait, je crois que j'ai pris du bon temps, j'ai beaucoup ri, et j'ai eu une vie professionnelle intense et bien remplie, et je ne vois pas de meilleure façon de passer son temps, et c'est certainement bien mieux que de travailler pour gagner sa vie. Donc voilà, c'est pas pour gagner sa vie qu'il faisait des films, c'était pour vivre, et puis voilà, il nous a tellement, tellement aidé à vivre.
Voilà la cinéaste Julie Bertuccelli, dont vous retrouverez d'autres propos sur Frédéric Wiseman dans le numéro de Plan Large diffusé le 7 septembre 2024 à la table d'Antoine Guyot sur France Culture. Il est 18h16. Vous écoutez le journal. Venons-en aux élections municipales prévues les 15 et 22 mars. Ce scrutin fait souvent la part belle aux sortants. Combien seront-ils à rempiler dans un mois? Le chiffre reste assez stable, avec environ 60% de maires réélus. Et dans certains départements, le phénomène est marquant. C'est le cas dans les Hauts-de-Seine, près de Paris, où vous êtes allée, Rosalie Lafarge.
Il termine son quatrième mandat de maire, en a déjà enchaîné quatre avant comme conseiller municipal et adjoint, mais à 71 ans, Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux, n'en a pas marre du tout.
Bah écoutez, non.
Il sent même qu'il a encore un peu de marge par rapport à certains de ses voisins.
Ici, Moulineaux, je sais pas, il en est à 7 ou 8. Donc moi, je suis encore un genou.
Il s'est bien posé la question de passer la main ou non. La crainte du mandat de trop l'a traversé. Il a finalement choisi de repartir en campagne.
Bonjour, ça va? Ça va? Quand on est maire, on développe une passion pour sa ville. Et en fait, je ne sais pas si je peux envoler le mot, mais c'est une forme de drogue. C'est, voilà, on a besoin de ça. Alors attention, la vie de maire, ce n'est pas facile. Mais quand même, ça apporte beaucoup, beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction. On a l'impression d'avoir fait des choses. Et on a envie aussi de faire que ce qu'on a lancé soit terminé. Ah, Françoise?
Mon maire préféré.
Et puis, voilà, si je ne m'étais pas senti à même de le faire, si je n'avais pas senti une forme d'adhésion aussi, à la fois de mes collègues élus, et puis quand même d'une bonne partie de la population, certainement je ne l'aurais pas fait. Mais là, j'ai dit, bon, écoutez, comme je suis en forme et tout ça, on va y aller.
Mais sa mairie est convoitée. Ils sont plusieurs à investir les marchés de la ville pour tenter de convaincre les C1 de changer de chef.
Bonjour, je suis Liliane Vietzerbine, candidate pour la liste de la gauche citoyenne, sociale et écologiste.
Soutenue par l'EPS, Place Publique et le Parti communiste, cette conseillère municipale et son équipe veulent croire que Philippe Laurent a fait son temps.
Au bout de 25 ans, on n'est plus à l'écoute des habitants, plus à l'écoute des citoyens. Et les C1 se plaignent de ça, avec des décisions très verticales, sans concertation, sans explication, sans information transparente. Et nous, on travaille depuis 6 ans et l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire autrement beaucoup de choses et qu'on n'est pas figé dans une politique qui n'évolue pas.
Faire autrement, différemment, c'est aussi l'ambition affichée par un autre conseiller municipal, déjà candidat il y a 6 ans et arrivé deuxième, le macroniste Jean-Christophe Dessange.
Moi, j'ai une orientation centriste, moi, c'est mon ADN.
Assez proche, donc, politiquement, de Philippe Laurent.
C'est la méthode qui change, vous voyez, la méthode n'est pas la même. Et c'est ça que je veux mettre en avant, c'est en 25 ans, les choses ont bougé. Il y a 25 ans, on ne parlait pas du numérique, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, on ne parlait pas de la métropole du Grand Paris comme on en parle aujourd'hui. Il y a besoin de changer de méthode, on le voit localement. Il faut être plus à l'écoute, il faut redonner envie aux gens de faire de la politique. Il faut que les choses évoluent à Sceaux et c'est pour ça que je me présente, pour changer de méthode.
De la concurrence à gauche, au centre et pas seulement. La présidente de l'Union des commerçants et artisans, Claire Bourdier, veut se lancer. Et deux élus municipaux, candidats sur la même liste de droite en 2020, repartent cette fois séparément. Maud Bonté d'un côté, Flavien Poupinel de l'autre. À 33 ans, ce fondateur d'une agence immobilière à la tête d'un collectif dit sans étiquette s'imagine capable de déloger l'inamovible maire de la ville.
Il y a quelques mois, je vous aurais dit mission compliquée. Aujourd'hui, si je me fie seulement à ce qu'ils disent dans la rue, les gens ont dit que le programme était cohérent. C'est vrai, je suis jeune, mais justement, j'ai de l'énergie. Parfois, au bout de quelques mandatures, je peux comprendre, on a moins d'envie, moins de force, c'est normal. Sauf que moi, justement, j'ai encore beaucoup à donner. Et le jour où je sentirai que je n'ai plus la flamme, je passerai la main. J'estime que ce n'est pas sain de rester plus que de mesure.
Le maire Philippe Laurent laisse entendre que s'il est reconduit, ce mandat sera celui de l'organisation de la suite, mais sans être vraiment catégorique non plus. Jamais de décision trop définitive, sourit l'élu.
Merci Rosalie Lafarge. Quelques mots de la météo de demain matin, temps agité avec de la pluie, du vent et temporairement de la neige sur le nord et le nord-est. Ce journal a été préparé avec Alix Forgeot à la technique, Julien Moulet.